Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les grands prêtres et les scribes, se rassembla et on fit amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent : « Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent : « Est-ce donc toi qui es le Fils de Dieu ?» Il leur répondit : « C'est vous qui dites que je le suis. » Alors ils dirent : « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. » Ils se levèrent tous ensemble et le conduisirent devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant : « Nous avons trouvé cet individu en train d'inciter notre nation à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César et il se dit lui-même Christ, roi. » Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Il lui répondit : « C'est toi qui le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules : « Je ne trouve rien qui mérite condamnation chez cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent : « Il soulève le peuple en enseignant toute la Judée depuis la Galilée. Il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui s'est trouvé aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et l'espérait le voir produire quelques signes. Il l'interrogea longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit resplendissant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.
La question de savoir si le Nouveau Testament est anti-juif, il est impossible de répondre par oui ou par non. D'abord parce que l'histoire des débuts du christianisme nous échappe en partie. Le Nouveau Testament est pluriel. Il représente au moins une dizaine de traditions différentes, les unes en milieu juif et d'autres en milieu païen. Ensuite, parce qu'une ou deux générations sépare le temps de Jésus de la rédaction des écrits chrétiens. Or, c'est précisément à ce moment-là que l'histoire du judaïsme va être bouleversée par la destruction du temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Une période qui va voir le judaïsme devoir évoluer sous peine de se diviser de manière délétère. Et enfin, parce que les textes du Nouveau Testament ont été interprétés au IIe siècle, dans des contextes différents, ayant évolué, qu'ils soient juifs ou chrétiens, chacun de leur côté, en durcissant leur position pour maintenir les acquis identitaires. Cela étant dit, l'hostilité contre les juifs se retrouve à toutes les époques. Elle surgit particulièrement pendant les périodes troublées, c'est-à-dire en fait bien souvent. Le sociologue Michel Viviorca, dans son ouvrage « L'antisémitisme expliqué aux jeunes », rappelle comment le racisme moderne prend son essor au XIXe siècle en opposant les Aryens et les Sémites, en référence à Sem, le fils de Noé, et à sa descendance. Le terme est proposé, on peut le dater, en 1860, dans le monde scientifique. Il devient populaire au sens où il est vulgarisé en 1879. Là aussi, c'est très précis. Et le terme antisémite devient rapidement un nom commun pratique pour afficher une hostilité raciste envers les Juifs, fondée sur une hiérarchie qui, à l'époque, passe pour être scientifiquement rigoureuse. Mais il est impossible de comprendre l'antisémitisme moderne et surtout la facilité avec laquelle il s'est installé en Europe si l'on ne saisit pas qu'il trouve son origine dans un anti-judaïsme largement ancré dans la culture occidentale. Les textes du Nouveau Testament racontent, on l'a entendu, comment les dignitaires juifs ont fait arrêter Jésus et mis en place le système qui va le condamner. Mais c'est le préfet romain, Ponce Pilate, qui l'a condamné à la crucifixion. Or, il semble que la condamnation finale ait passé pour un détail aux yeux de l'histoire qui n'a retenu que l'idée que le groupe humain, les Juifs, est coupable de la mort de Jésus. Cette vérité, énoncée de manière théologique par l'Église chrétienne, donnera l'enseignement religieux implacable que les Juifs sont le peuple déicide, c'est-à-dire le peuple qui a tué Dieu. Cette idée est devenue rapidement une évidence, se déclinant sous plusieurs formes. Ainsi, pour prendre un exemple que vous connaissez, l'art chrétien porte la trace de cette vision. Le judaïsme y est traditionnellement représenté par l'allégorie la synagogue, une femme aux yeux bandés et au sceptre brisé, la statue de la synagogue, déchue, se retrouve, entre autres, parmi les sculptures de la cathédrale de Strasbourg, sur le portail sud. Elle est là pour nous rappeler, si besoin est, la position de l'Église pendant des siècles. Il ne s'agit pas ici simplement d'une anecdote ou d'un rappel d'un temps depuis longtemps révolu. Cette pensée qui peut certes aujourd'hui sembler absurde à certains d'entre nous, j'espère un certain nombre, fut en vigueur, je l'ai rappelé en introduction, jusque dans les années 60. C'est ce que l'historien Jules Isaac a appelé l'enseignement du mépris. Ainsi, historiquement, les Juifs forment d'abord et avant tout, dans l'inconscient collectif européen, le peuple qui a refusé de reconnaître le Messie au point de préférer sa mort. Et le christianisme est la vérité venue remplacer l'erreur. C'est le fameux « Verus Israël », le terme qui incarne au mieux cette théologie de la substitution. L'Église est venue remplacer le peuple élu pour s'y substituer. On pourrait multiplier les exemples d'histoires, de rumeurs lancées, de crimes commis au nom de cette idée bien ancrée, car tellement évidente. Pourtant, comme le rappelle l'historien Fadielowski, entre le judaïsme et le christianisme, il n'y a pas d'opposition radicale, mais il y a une personne, la personne de Jésus-Christ, dont il est écrit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Depuis 19 siècles, la synagogue et l'Église demeurent séparées par la question que Jésus pose à chacun de nous, « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Cette question contraint chacune et chacun à répondre par oui ou par non à propos du fils de Marie. Fondamentalement, il faut le dire, cette situation n'a pas changé. De même que fondamentalement, les textes fondateurs n'ont pas changé. Ce qui a changé peut-être, ce qui a ébranlé les certitudes théologiques, c'est, il faut le dire, certainement la Shoah et la prise de conscience dans le monde chrétien que l'Église est indissociablement liée à Israël. Peut-être est-il important ici de préciser que le terme « Israël » caractérise le peuple juif et le judaïsme en tant qu'entité religieuse, en tant qu'entité sociale et culturelle. Lorsqu'Israël est pris au sens politique, on parle alors expressément de l'État d'Israël, ce qui est évidemment différent. En 1961, lors du Kirchentag, ce rassemblement bien connu ici, des protestants allemands à Berlin, la commission juifs et chrétiens, a été mise en place pour traiter la thèse de l'alliance non révoquée. L'idée, alors encore nouvelle, que la nouvelle alliance révélée en Christ n'est pas une seconde alliance, comme on l'entend encore souvent, mais l'alliance renouvelée qui a été promise en Jérémie 31. Dans l'une des premières phases du dialogue judéo-chrétien, après 1945, qui exerce encore son influence aujourd'hui, on a formulé l'idée de deux voies de salut parallèles, les deux voies ayant leur point de référence commun dans le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour Israël, la voie qui mène à ce Dieu, c'est la Torah. Pour les nations, et les nations, c'est nous, c'est le Christ. La relation particulière de l'Église à Israël, établie à travers l'événement Christ, est donc indissoluble, car l'élection d'Israël fait partie intégrante de l'histoire du Dieu unique qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ainsi, dans la perspective de la foi en Christ, l'élection d'Israël comme peuple de Dieu n'appartient pas au passé, et ne peut donc être comprise comme invalide et dépassée. Il nous faut, et peut-être aujourd'hui plus qu'hier, affirmer avec Paul que les promesses faites à Israël ont été non seulement confirmées, mais renforcées et élargies par l'événement Christ. Pour la prédication chrétienne, le témoignage des Écritures saintes d'Israël est une partie constitutive de l'histoire de la révélation qui lui est propre. Vous connaissez peut-être la doctrine des deux dieux que Marcion a essayé de développer au IIe siècle et qui apparaît comme les conséquences d'une théologie qui veut rompre avec un judaïsme vécu comme une fausse religion. L'événement Christ lui-même oblige l'Église à ne pas oublier que la révélation faite dans les Écritures saintes d'Israël est adressé à l'origine et de façon permanente à Israël. Il n'est donc pas possible de concevoir une différence entre le Dieu d'Israël et le Dieu pour le monde. Ces affirmations forment le fondement du travail théologique de la communion de Leuenberg. La communion de Leuenberg est composée par des délégués de plus d'une vingtaine d'églises européennes issues de la Réforme qui ont participé à 8 consultations entre 1996 et 2000. Elle a délibéré sur plus de 30 prises de position reçues, accompagnées par des théologiens juifs. Frères et sœurs, nous savons pertinemment que la crédibilité du témoignage chrétien est influencé par les expériences concrètes que font les Juifs avec les chrétiens. Et en disant cela, vous sentez combien les Juifs, ici, forment l'archétype du prochain qui vient à notre rencontre, sans en épuiser ni le nombre, ni la diversité. C'est-à-dire que de même qu'au moment des persécutions, les Juifs furent bien souvent le premier chaînon d'une longue suite, il peut en être ainsi dans l'autre sens. On ne peut ignorer que les expériences faites par les Juifs dans leur rapport avec les chrétiens ont bien souvent ébranlé, à la base, la crédibilité du témoignage chrétien. Cela, nous devons nous l'entendre rappeler, quelle que soit l'époque ou le lieu dans lequel nous témoignons de notre foi. Et nous devons nous efforcer de réparer ce qui a été commis au nom de ce que nous croyons. Formons le vœu que la prédication chrétienne s'efforce de s'exprimer de manière appropriée à propos du judaïsme et de sa foi, qu'elle évite, par exemple, de relayer des clichés sur la piété légaliste juive, et qu'elle soit plus attentive à l'auto-compréhension qu'en ont les Juifs par une meilleure connaissance qui nous sera bénéfique à tous. Formons le vœu également que la réticence à l'égard de textes tirés de l'Ancien Testament, perceptibles jusqu'à nos jours dans notre Église, soit l'objet d'une réflexion critique pour être surmontée. Je suis certain que notre communauté du bouclier possède tout ce qu'il faut pour être à l'avant-garde dans ces domaines. Et je voudrais conclure avec une anecdote qui aurait pu connaître une issue tragique, mais qui est porteuse d'espérance. Il y a 5 ans, en 2010, le rabbin Rivon Krigier, de la communauté Massorti à Dat Shalom, fut invité par l'archevêque de Paris, le cardinal André 23, à prendre la parole dans le cadre des conférences du Carême à Notre-Dame de Paris. Et cette conférence fut perturbée par une 50aine de catholiques traditionalistes qui récitèrent alors un chapelet en réparation pour l'outrage tel que déclaré par l'un d'entre eux. L'outrage de la présence de Juifs dans la cathédrale, et non pas l'outrage perpétré par des chrétiens envers les Juifs. Cette intrusion n'empêcha pas le rabbin de déclarer, je cite, « Nos traditions respectives partagent une conviction fondamentale. En amont, Dieu se fit logos. Ensuite de quoi, pour les chrétiens, ce logos s'est fait chair en Jésus. Et pour les Juifs, parole vivante de la Torah. Nous devons admettre que les traditions religieuses sont autant de déclinaisons de ce logos, mais que son sens ultime est encore en aval de toutes. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous donne grâce et paix.